Moshi Moshi, bienvenue dans votre animé préféré, l'heure est grave. Bonsoir à tous, bonsoir Gaspard.
Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Raphaël.
Gaspard, prends, c'était horrible, excuse-moi. Bonsoir Raphaël.
Gaspard Nosama. Bienvenue dans l'heure est grave et ce soir on vous parle de Teori, qui est une BD espagnole. Comme son nom l'indique, c'est Teori. Sorti en 2015, donc c'est... Aujourd'hui on va vous parler du premier tome de Teori, puisqu'en fait c'est une trilogie qui va parler du monde du tatouage japonais, et qui est fait par deux artistes, Marcial Toledano d'une part, et José Robledo.
Robledo !
Non, Robledo.
Robledo.
Robledo. Il est très 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 connu au Japon, du coup.
Oui, Robledo. Ça m'étonne pas.
Marcial, qui est donc le dessinateur, né en 1980 en Espagne, José, qui est le scénariste.
Et celui qui met la bonne ambiance.
Qui est né en 1979, également en Espagne. Ils se rencontrent tous les deux alors qu'ils font les Beaux-Arts. Donc leur petite aventure commence ensemble en 2001, où ils vont être sélectionnés pour le concours national.
Ils s'embrassent pour la première fois sous le pont.
Avec des grands yeux de manga, c'est genre... la nuit.
Ah, tu vois ? Ah, tu connais ?
Tourne dans ça, non ? Oui, sexy.
Donc c'est à peu près jusqu'où ira notre imitation des mangas ce soir. Grand talent pour nous deux. Donc en 2001, ils sont sélectionnés pour le concours national d'illustration.
Kenavo à tous nos amis les japonais.
Voilà, Kenavo. Et pour le concours national d'illustration et de bande dessinée in Ruve. Donc c'est plutôt le concours national de la illustration.
La bande dessinée.
Et la bande dessinée. Donc c'est plutôt pas mal pour un début, parce qu'à cette époque-là, ils ont 20 ans les mecs, hein, donc c'est quand même assez coriace.
Toujours pas de prix Nobel, là, en tout cas.
Non, mais alors ça, de toute façon, à part nous.
À part toi.
À part moi,
tu
oui.
Tu es bien gentil, mais...
Bah, je travaille sur un prix Nobel de la paix en ce moment.
De la paix ?
Oui. Entre les Haussiens et les Juilletistes. J'essaie de réconcilier à différents millénaires.
Si on roulait sur l'autoroute de l'amour ensemble.
L'autoroute des vacances, est-ce que c'est pas ça le problème de tous ?
Le péage de Saint-Arnoul, de la bonne humeur.
C'est exactement ça ma mission que je me suis fixée. Bon, bah, rendez-vous l'année prochaine pour voir ce que ça donne.
Est-ce que du coup, t'es ami avec Laurent Wauquiez aussi ou pas ? Il pourrait dire qu'il te connaît ?
Ah bah oui, comme Sœur Teresa.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est Sœur Teresa qui connaît bien.
Oh, très bien, ouais.
Ah oui, pardon, je confondais avec...
Mais viens, on explique encore plus la blague, comme ça, elle est encore plus drôle.
Exactement. Donc, leur première série franco-belge, comme on dit, parce que c'est le type de BD qu'ils pratiquent, même s'ils sont espagnols et qu'ils font un truc sur les Chinois.
Les Chinois japonais.
Oui, les Chinois du Japon. Mais c'est pas les mêmes, attention à pas confondre. Après notre épisode, de toute façon, sur les Roumains...
Oui, de la semaine dernière.
Je crois que c'est absolument terminé, toute crédibilité à l'international. Ce qu'on a déjà eu de toute façon.
Bon, de toute façon, les Shintok et les Jap, moi j'en ai...
Pardon. Ouais, moi j'aime autant vous dire. Du coup, pour une BD qui s'appelle Ken Games, publiée en 2007, qui n'est
pas...
Ken Games, et qui ne parle pas de sexualité, mais c'est un polar sur les faux-semblants entre amis. Une deuxième série qui s'appelle WW22, pour World War Tutu.
Tutu. C'est la guerre des chiens.
La guerre des chiens, exactement. C'est la guerre des chiens qui sont laissés sur le bas-côté par les juétistes et les haussiens. Enfin, c'est un truc très très compliqué. Et là, c'est un projet collectif, du coup, qui se passe. Alors, c'est pas que eux, du coup. Qui dit projet collectif dit plusieurs équipes de BD, enfin de dessinateurs et d'auteurs qui vont travailler là-dessus. Eux, ils vont s'occuper du deuxième tome et qui a porté... En fait, c'est une uchronie sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, uchronie, c'est quand tu prends un point défini dans l'histoire passée et tu décides qu'il s'est passé différemment et tu décides d'une fiction sur l'avenir. Et qui va parler de la succession d'Hitler. Voilà. Donc, c'est...
Oui, c'est très... Oui, non, c'est très drôle. Moi, j'adore. Ça me
fait hyper drôle. Ça te fait marrer, Hitler ?
Toujours. Mais moi, c'est...
Nazi.
Ouais.
Nani.
Exactement.
Et donc, en 2015, sort le premier tome de Teori, la BD qui va nous nous intéresser aujourd'hui et qui est donc une trilogie sur le monde des yakuza et des tatouages. Et alors, avant de parler un petit peu plus de cette BD, on va s'intéresser...
On va faire un petit point tatouage.
Gaspard, est-ce que tu peux montrer aux auditeurs tes tatouages, s'il te plaît ?
Non, parce que, tout simplement, la radio ne me le permet toujours pas. Avant, je peux vous permettre d'imaginer... les nombreux dessins qui couvrent mon corps.
Ouais. Tu as également la langue fendue, toi.
Oui, mais elle s'est reconnectée. Après que, justement, j'ai fait un traité de paix entre eux. Oh. Et qu'ils aient pu se ressouder, enfin, en n'étant qu'une seule langue.
C'est la grande langue unie. C'est...
Le traité de la langue.
De la langue.
mais non, c'est vrai que j'ai un attrait particulier pour l'art du tatouage.
Tu es tatoué de la tête...
De la tête au nombril. Non.
Pas l'épée.
Non, j'ai un principe, c'est jamais sous le nombril.
Superstitieux ?
Non, tout simplement par respect pour mon corps et pour celui de mes partenaires. Point .es.
Point .e. Point .s.
Non.
Non, point.
Point .es.
Damn. Moi, j'aimerais parler un petit peu avant de te demander ton avis de cette BD, parce que je pense que de toute façon, un petit peu comme dans
dans chaque émission, c'est le principe.
Comme dans chaque émission, on demande ton avis, mais non, mais comme dans celui de la semaine dernière sur le film là, €2 s'il vous plaît là, ouais. Comme on a fait là sur le temps des Gitans, j'ai dû y avoir des avis qui sont un petit peu tranchés sur le truc. Et moi, en fait, cette BD m'a particulièrement attiré graphiquement, parce que moi, je trouve que c'est un style qui est très très beau, très léché. Très clairement, le Toledano là, il dessine vraiment très bien. C'est assez classique dans ses dessins de près. Il y a pas de grand chose de fou. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ses perspectives, notamment les scènes à moto qu'on va pouvoir avoir dans la BD que je trouve hyper bien faites.
La moto ?
Non, ça c'est la moto. Voilà. C'est tu peux sushi.
D'accord, mais la moto non. Ouais. Putain.
Donc voilà, graphiquement c'est très beau. Ce qui me fait beaucoup plaisir aussi, c'est que les personnages sont vraiment asiatiques, hein, pour une BD qui se passe au Japon. C'est quand même pas mal. Là où on a tendance, notamment les mangas.
Occidentaliser le visage.
Ouais, c'est ça. Tu dis putain, même si les Japonais dessinent leurs propres personnes qui vivent dans leur pays comme sous les traits d'occidentaux, alors que là, c'est deux putains d'Espagnols qui vivent à Madrid qui ont décidé. Et donc, si on leur faisait les yeux bridés, ah bah oui, c'est pas con puisqu'ils vivent au Japon. Ah bah oui, voilà. Donc, je trouve que c'est un effort qui est bienvenu dans la BD, qui ne fait pas souvent cet effort-là. Et surtout graphiquement, et moi, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup cette BD, parce qu'on va pouvoir revenir sur l'histoire, parce que je pense que Gaspard aura quelque chose à dire.
Ouf. Tant de choses.
Gaspard, lâche le cou de ce petit chiot que tu es en train d'étrangler
de rage.
Moi, ce qui m'a beaucoup plu graphiquement, c'est les tatouages. Je trouve que c'est très très beau ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un vrai travail de recherche et de.
À un moment, on voit un poignet et il y a un symbole de l'infini qui est vraiment pas mal. Ouais, et un autre où on voit une colombe qui s'envole.
Ah, c'est
ou un livre ouvert aussi.
Alors, livre ouvert.
Livre ouvert avec les pages qui se feuillettent.
Moi, j'ai beaucoup aimé la flèche indienne ou encore l'encre marine.
C'est vrai. L'encre était pas mal.
Elle est avec des super couleurs, une perspective.
Et
vraiment,
l'idée aussi d'un mec qui avait des chiffres romains dans le cou.
Ouais. Mais alors, c'est vraiment osé parce que c'est les chiffres romains qui vont du coup jusqu'au nombril pour le coup.
C'est très très
long. C'est qui dégouline sur les têtes. Enfin, c'est.
Qui dégouline.
Ouais, c'est un tatouage.
Non, fallait le tenter quand même.
Voilà, fallait tenter. C'est très osé. Non, ils sont vraiment très très beaux et on peut voir sur les ébauches qu'ils ont fait de dessins qu'il y a vraiment un travail sur le tatouage qui est assez impressionnant. On sent vraiment que tu as un art graphique en plus de celui simplement de l'illustration qui est très très intéressant. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette BD et ce qui fait que depuis, je me suis rasé la tête pour vivre comme un parfait japonais. Et que je suis tatoué de la tête.
Non, aussi. Tu es rasé, mais tu as laissé la petite.
J'ai laissé le chignon là.
Le petit chignon, voilà.
Voilà. Et je me suis collé deux droites dans la gueule pour avoir les yeux bridés.
Qu'est-ce que t'en penses ? Putain, celle-là, on l'enlève. Allez.
Voilà. Donc, Gaspard, je me tourne désormais vers toi pour te demander, mais qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
J'en ai pensé beaucoup de choses. Je vais être très sincère, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai pas non plus été. Particulièrement emballé. J'avoue que je trouve très intéressant le postulat de départ. En fait, je savais pas du tout de quoi ça parlait en ouvrant la BD et non pas le document PDF. non, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et j'ai été agréablement surpris de voir.
De dessin, du coup.
C'est une BD.
C'est en français. De quoi ça parle ? Comment ça parle ? Non, mais je savais pas que ça allait parler de tatouage, de monde de yakuza et tout ça. Après, j'ai beaucoup de mal, simplement avec les personnages que je trouve horriblement bêtes. Et surtout,
on pourrait revenir dessus.
Ouais. Et surtout un autre truc. Je suis content en fait qu'on ait insisté dessus sur les quelques BD qu'on ait faites avant. C'est qu'on avait précisé, par exemple, pour Trancher ou pour Satouf, qu'ils avaient une maîtrise du dialogue. Là, c'est malheureusement, je pense que c'est la traduction aussi.
Je pense qu'il y a un truc avec la traduction aussi. Ouais.
C'est absolument mais illisible et ridicule. Le dialogue est vraiment horrible.
Illisible, je sais pas, mais le dialogue est assez ridicule.
C'est pas illisible, au contraire, c'est qu'il est surlisible. Et c'est vraiment
c'est cousu de fil blanc, enfin c'est très
c'est comme si Raph débarquait dans la pièce et je disais bonjour Raphaël, comment vas-tu toi mon ami. c'est que des phrases comme ça qui
on est amis maintenant.
Ouais, non, mais c'est la radio là.
On s'en fout pour faire après.
Oui, c'est ça. Et non, mais ça rend l'expérience assez gênante, et surtout quand il s'agit de parler de yakuza, de code d'honneur, de vraiment de trucs qui sont censés faire peur. Ça fait toujours sourire en fait c'est un peu gênant.
Je trouve qu'il y a ce truc qui est un peu bizarre quand même, alors que moi je déteste dans les livres, c'est-à-dire quand ils font un lexique
évidemment.
À la fin, c'est-à-dire que moi ce que j'aime dans les livres ou les BD même, c'est notes de bas de page si t'as envie de mettre un truc. Me forcer à
petite
tourner.
Petite dédicace à Jean-Pierre,
Note de bas de page qui nous a fait Kafka, qui nous a fait un grand plaisir. Et franchement, c'est hyper chiant de devoir retourner parce qu'en plus tu risques en ouvrant malencontreusement une des dernières pages, de tomber sur la fin de ta BD. Donc au final, tu te prives de quelques explications qui sont, ma foi, pas malvenues, hein, sur le monde de japonais, des yakuza. Donc tu apprends des petits termes un peu intéressants. Mais c'est pas... Déjà, un, ils sont pas indispensables. Et moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est le côté genre surenchère pour te montrer qu'on a vachement respecté la culture.
Non, mais c'est surtout du putain de name dropping. Il y a pas c'est une phrase où, en plus, du coup, c'est une sorte de franc. Le mot, c'est franglais, mais là, c'est du franc japonais où toutes les deux secondes, ils balancent un mot. À mon avis, tu sais, ils doivent appeler ça le truc entre eux. Ils disent pas le nom à chaque fois.
Ok, ouais, bon, de mon côté, du coup, moi, j'ai quand même vraiment apprécié, en effet, pour le côté graphique, comme je te disais. En termes d'histoire, j'ai, en fait, comme c'est une trilogie, les deux autres tomes sont sortis, j'ai pu terminer, du coup, la BD complète.
Ah oui, autant le préciser, moi, je sais pas comment ça se termine. Il y a un cliffhanger à la fin du premier tome, là.
Il y a un cliffhanger que je trouve pas mal du tout. Le ouais, cliffhanger de la fin est assez cool.
Le spoiler alert, ça finit sur des boobs.
Bah, c'est pour ça que j'aime bien, gros. Et spoiler alert, malheureusement, ça se termine pas sur des boobs à la fin du tout.
Donc, oh.
Ouais, c'est assez triste. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Non, mais l'histoire est pas exceptionnelle. Il y a des développements intéressants, mais c'est pas non plus incroyable. Bref, pour vous parler, donc, on parle tout à l'heure de Teboy, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous fais un résumé très rapide. Yoshi, après avoir quitté Mario, ce sera la seule fois du podcast qu'on la fera. Oui, le héros s'appelle Yoshi.
Moi, je peux supprimer la moitié de mes notes, merci.
Désolé. Non, putain, donc il peut pas sauter, il peut pas attraper des pièces, il peut pas pondre des œufs. Qui est un jeune. Oh putain, tu le fais vachement bien.
Je sais, je t'en prie.
Tu leur feras une petite transition. Si tu veux. C'est un jeune japonais turbulent et qui est donc placé par son grand-père chez Seijun. Qui est un grand maître du tatouage du tebori, comme en fait qui est le tatouage traditionnel japonais qui ne se fait pas avec des pistolets tatoueurs mais avec une espèce de lance.
Bah, en fait, c'est la mécanique du tatouage, enfin dans le pistolet, là, elle est juste manuelle quoi. C'est exactement. Vraiment comme une grosse brosse ouais. Qui rentre dans le
avec
bras.
Avec des pics. Et donc ouais. C'est un maniement, bah comme tout ce qui est un peu japonais. Hein. C'est tu vas devoir. Je vais pas faire d'accent. Je vais pas faire d'accent, sinon ça va être terrible.
Non, mais c'est très manuel et surtout ça a l'air horriblement douloureux.
Ça
quoi.
A l'air extrêmement douloureux et deux, ça a l'air d'être de. Enfin, c'est une maîtrise de grand art, tu vois. C'est pareil. T'as des grands maîtres du truc, donc voilà. Il est mis en apprentissage chez ce grand maître tatoueur. Et chez ce grand maître, il va donc apprendre l'art du tebori. Il va très bien s'en sortir, puisqu'il va apprendre la technique du tebori. Il va devenir même assez doué avec ça. Mais sa petite vie de tatoueur tranquille va se retrouver confrontée à, pour moi, deux événements un petit peu étranges. D'un côté, tu as le fait qu'en fait, il va se trouver assez lié avec des yakuza. Et de l'autre, l'arrivée d'une nana un petit peu mystérieuse.
Merci Raphaël pour ce petit résumé digne, mais digne des grands hommes.
Moshi moshi.
Et sur cet accent magnifique, j'espère qu'il y en aura d'autres, vraiment. Je te propose qu'on ouvre cette bande dessinée cartonnée pour passer à la première page.
L'histoire commence sur le père de Yoshi, qui l'amène, ou son grand-père d'ailleurs, parce que je crois qu'on apprend après que c'est son grand-père en fait.
Moi j'avais pensé que c'était son grand-père.
Ouais, moi je pensais à son père, mais en fait c'est son grand-père. Bref, son grand-père qui l'amène chez un vieux poteau maître tatoueur, qui lui dit, écoute, chez June, est-ce que tu peux me dépanner? Il a fait des conneries mon gamin, hein. il a fait des conneries avec la motocyclette, hein.
Surtout, non, je... Première pause, deux petites infos que j'aime beaucoup. C'est pas genre tu viens voir ton pote et tu t'assois... C'est ton pote est à genoux et tu te mets à genoux à côté de lui, ouais. Tu baisses la tête, tu regardes le sol. Ah, je suis désolé, je vraiment suis désolé. Mon fils t'en enculé, est-ce que tu peux t'occuper de lui?
Merci. Voilà. Mais genre, m'occuper de lui, enfin, il continue à vivre avec toi? Non, tu le prends quoi.
Tu lui donnes des douches, tu l'essuies, tu fais tout ce qu'il veut. J'en peux plus.
Mais il a 17 ans, enfin, c'est un adulte.
Oui, c'est pour ça.
Oui, je peux plus le faire moi-même. Toi, tu peux continuer.
Alors, un autre truc aussi.
Continue ce que j'ai commencé pour mon enfant.
Un truc que j'aime beaucoup et qui est en fait un peu le sujet de la BD, des préoccupations du jeune homme, qui va être une confrontation entre les traditions nippones et le monde d'aujourd'hui. Ça s'ouvre, première page, sur un combat de sumo.
Oui.
Si je dis pas de bêtises.
Oui.
On est en plein milieu du combat de sumo.
Bah c'est deux mecs très gros qui se foutent sur la gueule. Qu'est-ce que ça peut être pour toi?
Prof, tu sais.
Combat de rue, vous présente. Non, putain, c'est deux pauvres qui se foutent sur la gueule pour un pot de Nutella. Et lol.
Non, mais ils sont en train de se battre. Le truc est hyper bien cadré. Hein, c'est très beau, c'est très tradition. Et puis en fait, pouf, on tourne la page suivante. En fait, on comprend qu'on est devant un vieux poste de télévision et que c'est un petit vieux qui est obligé de coller son nez à l'écran pour regarder ça, quoi.
Oui, parce que soit dit en passant, son pote vient lui demander, vient lui offrir son enfant en esclavage, et l'autre il en a rien à secouer, il est en train de boire son thé en regardant.
C'est ça, ils sont même pas assis l'un en face de l'autre.
Oui, c'est, bon, t'es mignon, mais ton gamin tu le laisses avec les autres qu'il y a dans la cave, et puis voilà. Donc voilà, Yoshi est mis en apprentissage un petit peu forcé, parce qu'on apprend qu'il a fait une connerie, on sait pas trop un peu ce qui s'est passé, mais il essaye d'échapper à un gang de quel il fait partie, un gang de motards. Donc on a une première séquence où on voit un petit peu ce qui amène Yoshi à être mis en apprentissage chez Maître Miyagi, hein, parce que pour moi c'est Maître Miyagi maintenant, je l'appelle comme ça. Je préfère l'appeler comme ça parce que franchement c'est plus pratique. Moi je pense à Maître Miyagi, Maître Miyagi, Maître Miyagi, voilà.
Maître Splinter.
Maître Splinter. Qui est un vieux rat crevé au monnaie.
Bon, c'est Maître Splinter.
Oh putain, c'était les cassos ça. Formidable. Recommandation en plein milieu du truc, mais alors les cassos, allez-y, subscribe et like that bitch. Donc, concrètement, Yoshi, c'est un fuckboy pour moi. Hein. Ça, je sais pas comment est-ce que t'en as pensé. C'est un pur fuckboy.
Totalement un fuckboy, et encore pire qu'un fuckboy, c'est quand même. Il appartient du coup à un groupe de motards, ouais. de loubards, vraiment. Et on nous les montre, c'est censé être des putains de loubards qui font de la moto, qui pètent la gueule à des mecs. Oui. Mais ils sont là, ouais, on est les corbeaux, ouais. Ils mettent le poing au ciel. Et c'est là où vraiment on se dit, putain, les dialogues, ça va pas être ça. Quoi.
Ça, parce que t'as le boss qui fait genre, croassez mes corbeaux, croassez.
Vous êtes des vilains corbeaux. Oh. Et on va les casser la gueule aux. Ils s'appellent les.
Alors,
les spectres.
Les spectres. Oh, allez. Les sphincters, oui, c'est vraiment Maître Sphincter, encore une fois. Non, mais c'est vraiment deux gangs de danseuses qui vont se foutre sur la tronche. Mais alors, moi, ça fait marrer. Ça me fait penser à Riverdale, la série de Netflix tout pérable pour les enfants.
J'ai pas le temps de regarder Riverdale.
Bah, moi non plus, mais j'ai un pote qui regardait. Et qui...
Non, est-ce que c'est le même pote que tu m'as dit l'autre jour qu'il avait des problèmes avec des taches au niveau du slip et
non, c'est mon pote qui a un pote noir, tu sais, genre ce mec-là. Voilà.
Oui. D'accord, je comprends.
Non, mais c'est. Bon, parce que j'ai pas envie de balancer le nom, mais pour le coup, c'est vraiment quelqu'un que je connais. Et du coup, un jour, je me suis retrouvé à regarder avec lui 5 minutes et je tombe sur un truc, le gang des serpents.
Ah, mais c'est ça.
Il y a le gang des serpents dedans.
Bah là, c'est le gang des corbeaux.
Le gang des corbeaux. Donc, c'est un peu. Voilà. Donc, il a fait une connerie avec son gang de danseuses. Donc, c'est un pur fuckboy. Hein. Pour moi, tatou et Carter sur les oreilles et tout. Enfin, il a une tronche de.
Non, mais en plus, on te le montre comme un loubard. Mais en même temps, le mec, il est hyper docile. On lui dit, tu te calmes. Il fait, ouais. Ok, je me calme tout de suite.
Okay. C'est un bon garçon, quoi. Maître Miyagi accepte. Et on va avoir une ellipse de 10 ans, apparemment. Pendant lequel Yoshi va apprendre avec Maître Miyagi l'art du tebori, le tatouage japonais.
Moi, j'avais pas capté qu'il y avait une ellipse. Du coup, ça, pour moi, il y a eu un énorme problème de putain, ça va très très vite entre eux.
Hyper balèze. Oui, en plus, ils deviennent très potes très vite. Genre, ils ont se claqué la bise.
Et
ils
donc, c'est ça. Et en fait, Yoshi tient un salon de tatouage avec Maître Sphincter. Lui, il est au rez-de-chaussée. Il tatoue monsieur et madame tout le monde.
Le tout venant.
C'est ça, exactement. Qui veut se faire tatouer le cercle infini sur le poignet. Et à l'étage.
Maître Miyagi
fait un truc et au début, nous, on voit du point de vue de l'autre employé, eux, qui travaille avec Yoshi et qui dit « Mais il fait quoi le maître là-haut? Je n'ose jamais aller le voir. » Le mec, il joue un peu, il essaie d'intimider la meuf en mode « Tu montes jamais là-haut.
Tu montes jamais voir le maître.
Tu vas pas voir ce qui se passe. Ouais. » Et parce qu'est-ce qu'il fait là-haut?
Eh ben, on va apprendre après, mais ça, je vous réserve le truc après, qu'il y a un problème avec des Yakuza. Mais c'est en fait que tout simplement, Maître Miyagi tatoue des clients un petit peu particuliers là-haut. Qui sont,
tu montes là-haut, il leur fait des danses, tu sais.
Le vieux, tu sais, qui. Ça sera. C'est 50
avec,
pour tenue.
Avec la K-pop. Eta, fatigue,
service, supply. En fait, c'est une geisha. Ils se déguisent en geisha et ils leur donnent du service.
Yoshi, qu'est-ce que tu veux là?
Tu ne devais pas voir. Mais non, mais parce que voilà, Yoshi, du coup, pendant ses 10 ans, s'est rapproché de son maître. Il est devenu un maître également, mais. En fin d'apprentissage, en fin de course.
Padawan.
Bon, c'est un padawan, mais genre padawan comme Anakin dans le 3, tu vois, genre il en a marre d'être padawan.
Ouais, un peu padawan. Genre, putain, mon maître, il me laisse jamais être un vrai méchant.
C'est ça.
Ouais,
c'est genre padawan, genre tu as ta place au conseil, mais nous ne te accordons pas le rang de maître. Et c'est ce qui déclenche toute l'affaire d'Anakin. Ouais. Mais on aura l'occasion de faire un podcast spécial Star Wars. Donc Yoshi qui passe sa vie entre le salon de tatouage, aller voir son maître et bien rigoler du fait que ah là là, il lui donne une image de mec un peu dur aux petits apprentis qu'il y a en dessous, alors qu'en fait il est plutôt sympa le maître, et boire des coups avec ses potes quand il a le temps. Et on voit aussi qu'il n'a pas arrêté la moto puisqu'il prend
Attends. Mais il va boire des coups avec ses potes.
Il va boire des coups avec ses potes.
Et donc, on voit le bar dans lequel ils vont et on comprend qu'il a un petit groupe de 5-6 potes qui sont tous aussi plus ou moins tatoueurs. Et ils expliquent que ouais, à l'école, on se moquait de nous parce qu'on faisait des dessins et on disait qu'on serait des ratés. C'est pas comme tous les mecs qui sont allés en école de commerce. Ouais. Qui, voilà, ah là là. Là. Mais en même temps, c'est des turbo-connards.
C'est des turbo-connards.
À être là. Et lui, Yoshimi, il est encore plus imbérable qu'eux.
Eh ben voilà, c'est son premier discours de fuckboy, justement.
Il baisse les yeux, il regarde, il fait « Non, mais moi, je pense juste qu'un tatouage, ça doit avoir du sens. Et ça, et doit là... parler, ça doit venir du cœur.
» Ta gueule ! Ferme ta gueule ! Et ça, c'est affreux, parce qu'en plus, c'est vraiment une case auquel les auteurs donnent de l'importance. On revient un petit peu sur les trucs des cases, parce que... c'est pas un petit carré comme tu peux avoir en général 8 ou 16, enfin 8 ou 12 carrés sur une page de BD en fonction de la taille des trucs. Là, c'est un encart, un rectangle qui prend l'équivalent de 2 carrés. Donc c'est vraiment un truc important qui est censé être un dialogue important de la BD. Quand son dialogue, c'est juste « Pour moi, le tatouage doit avoir
avec
un
la
sens. »
Avec la mèche qui tombe devant l'œil.
Et il regarde un peu mélancolique, tu vois, genre « Vas-y, mets ta gueule, quoi. »
Non, genre, et en plus, tu sens qu'il y a la musique, genre boum, 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 on est dans le bar et tout. Puis d'un coup,
qu'est-ce
genre,
tu dis énorme... Le tatouage doit avoir un sens.
Énorme gros plan sur lui. Je pense que le tatouage, ça doit avoir un sens. Mais
qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'est-ce qu'il y a de beau dans la philosophie de Kant, c'est...
Non, mais si pour parler aussi un peu BD, il y a un petit clin d'œil.
Oui, alors,
à Black Sad.
Oh, bravo.
Et j'étais très heureux de le voir.
Et ben bravo, j'allais le signaler, mais bravo à toi.
Et à un moment, merci Raphaël, je suis très ému. Et non, parce que j'ai Black Sad est une des premières BD que j'ai lues, BD adulte.
Ouais. Et d'ailleurs, on vous parlera de Black Sad parce que ça.
Oui, on fera forcément un épisode sur Black Sad.
Ça mérite d'être ruiné également, pardon.
C'est merveilleux. Et
là, il y a un petit clin d'œil où, voilà.
En fait, on voit Black Sad en mode manga.
Voilà.
Avec les gros yeux et
c'est,
tout.
C'est assez rigolo d'ailleurs, c'est plutôt bien fait. Du coup, voilà, entre sa vie de fuckboy, de tatoueur, etc., concrètement, pour lui, Yoshi, tout se passe très bien. Il va passer maître, etc., il a des petits apprentis, il aime bien boire des coups avec ses potes. Il y a une séquence montage. Alors, et ça, moi, c'est une séquence que j'ai bien aimée du fait qu'en fait, c'est hyper graphique et en fait, ça se rapporte encore une fois. Je trouve qu'il y a eu un gros travail graphique sur le japonais. En fait, c'est la BD est très, très fidèle à ce que serait... l'art japonais, et notamment ces deux pages pleines qui sont faites, en fait, qui font le montage, ça représente, c'est fait sous forme de paravent japonais, donc c'est hyper beau à regarder, même si c'est...
Mais moi, je place juste un petit bémol, c'est qu'à nouveau, c'est un gros problème de gestion du temps, c'est là, on est page 8, quoi. Et quand à page 8, on me fait déjà un montage après avoir fait une première ellipse, il y a un truc de... Comment tu veux que je vois un montage, un personnage qui évolue sur une longue durée, alors que ça fait même pas 8 pages que je le connais, ton perso. Moi, ça me gêne un peu. C'est pour ça que ça rend ridicule les quelques moments où on lui accorde une parole pour qu'il dise « Je suis un corbeau et... »«
Je suis un corbeau et... je suis des tatouages !» C'est quoi la BD que tu m'as demandé de lire, là, c'est bizarre, quand même. Bon, après, c'est un peu le propre de la BD de devoir faire des ellipses parfois
bien
un peu
sûr,
sales.
Bien sûr, mais...
Et surtout de voir...
Non, mais c'est pour jouer...
Voilà. Là où dans un écrit, tu peux avoir du dialogue où tu sais pas trop où ça se passe, forcément. Pour que là, ça soit intéressant aux yeux du lecteur, faut aussi que l'image accompagne. Donc, parfois, t'as ce genre de montage un peu ridicule. Et du coup, dans la petite vie bien tranquille de Yoshi, il va se passer un petit événement. Cet événement, c'est que la dure réalité va se rappeler à lui, et notamment le fait que Maître Miyagi, eh ben, en fait, c'est un Yakuza. Et ouais, un soir, Yoshi débarque dans l'atelier et il se rend compte que Maître Miyagi, il est tombé de son stana et il s'est fait un petit peu mal. Il s'est un peu cassé la gueule, hein, le pauvre.
Bah, il arrive et il voit une marque de sang, quand même.
Il se porte pâle, quoi.
Enfin, il y a bien même beaucoup, beaucoup de sang.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Gaspard, avec Maître Miyagi?
Alors, on apprend que Maître Saijun, puisque c'est son vrai prénom, en fait, s'est coupé un doigt lui-même.
Et pourquoi il se coupe un doigt?
Parce que justement, il tatouait des Yakuza depuis des décennies.
Était lui-même Yakuza, d'ailleurs.
Exactement. Et il dit, un code d'honneur, voilà, je prends ma retraite, je suis obligé de me couper mon doigt pour quitter le monde des Yakuza, c'est ma dette que je rends. Sauf que ça n'a pas beaucoup plu au Yakuza auquel il a dit ça.
Chef, mais en fait, c'est
qui
un,
lui a dit,
c'est
bah, très bien, si tu veux prendre ta retraite, tu n'auras plus besoin de tes doigts.
Voilà.
Et on lui a broyé les doigts au burin. Quoi.
Donc les Yakuza lui ont cassé. Alors c'est pas le petit fuckboy Yakuza qui a fait ça, hein. C'est un Oyabun qui est censé...
votre petite rupture
contractuelle.
C'est ça.
Alors du coup, comment on fait la rupture conventionnelle? Vous acceptez que je parte?
Bah écoute, tu poses ta main et...
donne-moi ta main, je la casse et puis c'est bon, on peut y aller. Ah bah voilà, faisons comme ça. Du coup, bah, séance fuckboy numéro 2, le mec s'était pas rendu compte du tout que Maître Miyagi, bah, il bossait pour des Yakuza. Hein, il est un petit peu couillon parce que t'es au Japon, les clients un peu high level, le grand maître, etc. Bon, tu mais dois
c'est,
te dire.
C'est là où, dans... page 15, on se dit que c'est un vrai idiot, quoi.
C'est un peu un vrai idiot. Et puis, t'as cette séance fuckboy numéro 2, justement, où il va faire un tour en moto pour prendre l'air. Et il va se mettre dans son entrepôt où il a tous ses souvenirs, etc. Et là où t'en apprends un petit peu plus sur son gang de moto, quoi.
Non, surtout que du coup, il commence à comprendre, et c'est ce que lui dit Maître Sphincter, c'est que c'est à toi maintenant de reprendre l'étage où t'as tous les Yakuza.
Donc il faut renflouer les caisses, et Yoshi va donc être mis à contribution pour faire ce qu'il fait de mieux. Qu'est-ce qu'il fait de mieux, Gaspard?
Je ne sais pas.
Eh ben, il fait des reviews de meilleur thé à essence de grain chai dans des reviews... Alors il faut se dire on a coupé deux fois pour que je puisse sortir cette blague parce que Gaspard comprenait pas quand je disais c'est quoi le talent de Yoshi.
Mais je la comprenais pas moi. Je suis un peu idiot.
Non c'est moi qui c'était une blague de merde. Bon mais du coup si c'est Yoshi qui reprend bah il faut que les Yakuza acceptent et les Yakuza ils sont pas hyper chauds de se faire tatouer par un peu le petit bleu même s'il a été dans les pattes de Maître Miyagi depuis 10 ans. Du coup ce qui va se passer c'est que Maître Sejun va dire écoute mon pote, on va faire un truc, c'est que je vais appeler mon brother, mon bro, il va nous aider.
Et il s'est d'abord tapé un premier refus. Il y a un mec qui est arrivé.
Il y a un Yakuza qui ne fait pas tatouer par le genou.
Et il a dit non, clairement, il a calmé direct Yoshi. Il lui a dit non, c'était ouf, tu me touches pas toi.
Tu étais trop jeune, je veux pas que tu me tatoues. Du coup, Seijun dit t'inquiète, on va te faire de la renommée. Je vais appeler un pote à moi.
Mon refrain,
bah alors c'est son frère de sang. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une belle hépatite depuis qu'ils ont fait les coins avec des couteaux. Soyons frères de sang. Et du coup, il l'appelle, le mec fait ah, « pas de souci, tu vas me tatouer, ça me fait plaisir ». Et le mec, alors c'est là que c'est aussi fuckboy mais générationnel.
Non mais surtout que le vieux, il le calme direct, le jeune. Parce que du coup, en même temps, c'est là où tu dis « mais il est tellement idiot ». Ça fait, allez, au bas mot, 12 ans qu'il est avec ce mec, hein, qui lui apprend l'art traditionnel du tatouage. On lui dit « tu vas passer au niveau des Yakuza, ma gueule ». Ceux que tu tatoues côté Bori, donc au manuel, il y a un premier Yakuza qu'on refuse. Ton maître vient de se faire briser les doigts. On appelle le refrain de prison pour que tu puisses t'entraîner. Et tu sors quoi? La machine électrique? Et le mec te regarde, il fait mais c'est quoi là? Tu crois que tu
je vous fais un petit piercing avec
tu crois que tu vas me toucher le dos avec ce truc? Non, tu reposes ça et tu me le fais mano à mano.
À l'ancienne. Et à la fin, tu me fais un petit harakiri et tu me places des sushis et tous les mots japonais que tu connais, s'il te plaît. Parce que là, je pense que c'est là où t'as le plus de concentration de mots japonais.
Ah, mais c'est là que j'ai jamais vu autant d'étoiles après les mots. Hein. C'est assez flippant.
Il faut y aller à fond. Alors, du coup, le mec lui fait un petit passage sur les traditions, etc. En partant, il lui laisse un tract du FN. Et du coup, le bise reprend. Les Yakuza acceptent de se faire tatouer par le
petit. À nouveau, est-ce qu'on commencerait pas un petit montage?
Non, exactement. Gonna nail montage. Alors, c'est les Yakuza de bas étage avant qu'on arrive à des Yakuza un peu plus haut. Mais ils commencent à se faire.
Notamment pour aller au premier étage. Là, de se faire, tu disais.
Là, il commence à se faire beaucoup de renommée dans le milieu. Alors, t'as ce montage, et dans ce montage, qu'est-ce qu'on voit? Il va au bar, mais il rate toujours ses potes parce qu'il est trop fatigué.
Parce qu'il est trop fatigué, il explique.
Et là, il croise quand même quelqu'un d'important au bar, ça va être la deuxième personne un peu importante.
D'abord, il va croiser le regard d'une femme.
D'une go, ma foi, forte sympathique.
Qu'on va qualifier de collectionneuse, et moi je me suis dit, dis donc, c'est un terme très joli pour parler d'une tasse et en non, fait, non, c'est vraiment une collectionneuse.
Prostituée, enfin, c'est genre... Ouais, c'est une travailleuse.
Il y a ça, vraiment, il l'a pas loupé, la petite brunette au bar. Et on voit aussi comment il tatoue les types, et il explique qu'il y en a, ils bougent pas quand je les tatoue au Tebori. Il y en a qui font semblant de pas avoir mal alors qu'ils hurlent de douleur. Et il dit, en revanche, ce qui m'impressionne le plus, c'est les petits vieux parce qu'ils s'endorment.
Oui, ils ont même plus mal, ils sentent plus rien. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'ils font pour ressentir encore des...
C'est comme moi, je ne ressens plus rien.
Tu ne ressens plus rien?
Mon cœur est vide.
C'est pour ça que tu t'es fait tatouer jusqu'au nombril, en fait.
Exactement.
Mais les jambes, ça c'est...
Ah, oh, ça je les sens bien, elles.
T'es extrêmement sensible des jambes. Et donc ça marche tellement bien qu'il gravit les échelons de gens qu'il peut tatouer, et il va finir par pouvoir tatouer un big boss des Yakuza. Mais alors, ce big boss des Yakuza, un Oyabun, oui, qui va se ramener, et il va lui dire, je veux que tu me fasses ma pièce maîtresse, un tatouage, et je veux te raconter... ce tatouage à travers une histoire que j'ai vécue.
Sauf que, je me permets quand même de revenir, parce qu'il y a eu une préparation paiement juste avant que le gros connard, enfin, que le maître...
Gros connard.
Que le
attention,
big,
hein.
Que le big patron, oui.
Bonjour.
Excusez-moi.
Non, mais avant que le big, on termine le podcast et vous pouvez l'emmener après.
Que le big... Prenez mon doigt. Non, mais que le big patron arrive, on tourne une page à un moment et on tombe en plein milieu d'un film de Steven Seagal. En tout cas... un type avec les deux mitraillettes qui commence à dire, et là j'ai dégommé 40 mecs au Uzi, j'ai monté dans ma bagnole, ultra dérapage, je suis un yakuza de taré et je nique des go et je démonte plein de mecs. Et donc je veux que tu me tatoues le moment où j'ai niqué tout le monde au Uzi, quoi. Donc il fait le tatou, le type s'en va, et puis Seijun est toujours à côté de lui en train
c'est-à-dire
de dire...
C'est-à-dire qu'il tatoue toute la scène,
c'est ça,
des avec des minuscules,
des bulles, des bulles de BD.
Aïe, j'ai mal, ouh, je meurs.
Il a fait inscrire le nom des 40 victimes.
Il a fait un mémorial, il fait une énorme pierre tournée, il a inscrit tous les noms. Bah, c'est pas ça que tu voulais.
Non, mais du coup, Seijun lui dit, mais tu sais, il y a beaucoup de Yakuza qui aiment qu'on leur tatoue un grand événement qui leur est arrivé dans le dos, mais lui, c'est un fils de patron Yakuza, je pense qu'on peut douter de la véracité de la
pierre tournée. Ouais. Mais s'il y a suisse de Yakuza, arrive également un vrai Oyabun, donc là, qui est un chef de section Yakuza, c'est le patron de la mafia dans une ville, et qui lui dit, écoute, maintenant je te fais confiance, tu vas pouvoir me tatouer. Il commence à lui raconter un événement un peu particulier,
c'est tellement le coiffeur,
un événement un petit peu mystique.
Les mecs sont chez le coiffeur quand
ils raconte,
se faire
tatouer. Très clairement, c'est... mais il raconte pas genre, ah, mon dernier, il a des problèmes de diarrhée en ce moment, c'est terrible.
Et le mec, il a tatoué.
Il tatoue, tu sais, il le tatoue genre la vague de diarrhée en mode Shining, tu sais, il sort de l'ascenseur. Non, donc il commence à lui tatouer ça. Et en gros, c'est là que ce truc est un peu compliqué, on a fait dans la BD, c'est que c'est un peu en intermittence. Donc, il interrompt la séance avec ce grand Oyabun, où il lui tatoue un truc un peu mystique dans le dos. Et apparaît un nouveau client dans son salon qui veut se faire tatouer et qui insiste pour être tatoué par Yoshi. Et on va voir qui c'est juste après une courte page de pub. Kochira, Kingdom 7 Flux, Yakushite 7 Flux, Shintai no Ikusa Genba ni imasu. Mite kudasai. 1 tai 1 man no gekutsu desu. Shin no kyōretsu daijigeki. Ōki shōgun. Ah, watashi tobasarete imasu. 7 Flux da kensaku. Bandai Namco. Un client inattendu, puisque c'est donc l'ancien chef de gang de Yoshi qui arrive.
Les corbeaux.
Les
croasses, mon ami croasses.
Regarde, je suis tellement un corbeau, attends, je me suis mis des plumes. Tu t'es fait percer des plumes, t'es sérieux?
Il sautille dans le truc.
Je veux que tu me tatoues, mais genre complètement à l'encre noire pour être tout noir comme un corbeau.
Oui.
Il fait que croire, il parle même plus, t'sais. Et donc le mec veut se faire tatouer par Yoshi. On en profite un petit peu pour revenir sur le background de Yoshi. Ah là là, on apprend que du coup, c'était un petit peu un gang d'amateurs de moto et qu'ils ont été un peu forcés à devenir violents. Et c'est ce qui a entraîné après le départ de Yoshi, qui ne voulait pas tomber dans la violence facile. Et ce qu'on apprend également, c'est que ce chef de gang des corbeaux, maintenant, il fait partie de la mafia, mais en mode pas juste adolescent. C'est devenu un adulte comme Yoshi. Et lui, il fait partie vraiment des Yakuza en mode sérieux.
On comprend qu'en fait, lui, ça faisait plusieurs années qu'il se faisait tatouer déjà par Maître Sphincter, en fait.
Oui, c'est ça. Maître Sphincter le tatouait de très belles choses. En parallèle de ça, continue donc l'histoire du gros Oyabun qui vient se faire tatouer sa pièce un peu mystique. Et pourquoi c'est mystique, Gaspard? Parce qu'en fait, il va nous raconter une histoire, cet Oyabun.
Une histoire assez dingue. Et ça, j'avoue que c'est le moment où la BD part un peu en cacahuète et ça me plaît assez.
Mais c'est hyper plaisant parce que c'est beaucoup plus développé dans le tome 2 et 3. Et ça, c'est assez cool.
En plus, oui, mais d'un coup, là, il y a un vrai truc fantastique qui arrive. Ouais. Et on s'y attend pas. Après, vraiment, le truc très, très réaliste et limite documentaire du reste de la BD.
Et ça aura un lien aussi avec le cliffhanger qui rajoute du truc mystique, quoi.
En fait, cet Oyabun, là, comme tu dis.
Oyabun.
Pardon, Oyabun, c'est mignon, c'est plus mignon, ça fait moins peur un Oyabun. Non,
en fait, il raconte les embouteillages à Paris avec la neige.
C'est ça.
Bon, alors, ne dis pas que j'étais sur la A1 là.
Non, mais et du coup, il raconte que quand il était jeune, pour se faire respecter, il avait accompagné une chasse à cour où ils sont tous en tenue traditionnelle japonaise. D'ailleurs, c'est très très beau.
Ils sont tous à Walp dans la neige.
Ah oui, avec leur tenue japonaise. Moi, je trouve qu'ils ont une classe assez dingue.
Ils ont un peu la classe.
Les mecs sont sous la neige.
C'est le truc que j'ai toujours trouvé un peu ridicule avec certaines traditions japonaises, c'est que les mecs sont sous la neige, ils sont avec leurs sandales en bois et en chaussettes. Et les mecs,
on est dans un film de Kurosawa, quoi.
Ouais, clairement. La tradition passe avant tout.
Et donc, ils font une chasse à cours. Ils se battent tous pour choper un cerf. Et lui se disait, pour me faire respecter, c'est moi qui vais buter le cerf. Et le ministre et tout le monde se considérera à ma force, quoi.
Oui, parce que la chasse à cour, je ne sais plus si tu l'as dit, mais en fait, c'est avec le ministre. Et c'est pour impressionner le ministre. Et lui, il raconte du coup sa jeunesse où il était déjà Yakuza. Il voulait bien se faire voir. Et son clan avait besoin que le ministre lui accorde une faveur X ou Y, quoi.
Donc, il chasse le cerf avec le ministre et non pas l'inverse. Et en fait, le cerf se balade au fond de la forêt.
Oh, chopez-le, il est là.
Et t'as un ministre avec sa petite mallette qui court.
C'est Nicolas Hulot, c'est... Mais arrêtez, mon Dieu.
Je dis que je l'ai pas touché.
Ah non.
Et du coup...
Non.
Et du coup, le cerf va se cacher, et lui, il dit, non, je l'abandonnerai pas, ce cerf, je vais le chercher dans la forêt. Et là, il tombe nez à nez avec ce que lui décrit d'abord comme une ombre gigantesque de bien 20 mètres de haut, et il dit, voilà, c'est là où je l'ai vu, et je savais qu'on avait atteint les limites, il fallait pas emmerder la nature. Je pensais que c'était une légende, mais non, je l'ai vu. Et là, il raconte que tout le monde est mort, plus ou moins. Voilà. C'est le truc à attaquer.
Sauf lui.
Même le ministre est mort, tout le monde est mort. Sauf que
du coup, on sait pas trop ce que c'est. C'est une entité un peu mystique. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il dit, moi, je voudrais qu'on représente ça sur mon dos. Pour lui, c'est un événement fondateur et en même temps une marque humble, en fait.
Et en même temps, il en parle aussi avec son ancien pote des corbeaux,
ouais.
Qui lui dit... Ouais, hein, ouais, moi je pense aussi qu'il dit de la merde. En fait, il a abattu tout le monde.
Et alors ça, c'est assez, assez cool parce que pendant...
Nous, en plus, on a la vision de ces trucs.
On a la vision. Et là, on parle que du tome 1, mais je peux te dire déjà que dans le tome 2 et le 3, le truc qui est assez cool en termes de scénario, c'est que c'est maintenu cette ambiguïté sur est-ce qu'au final, est-ce qu'il a halluciné sur ce qu'il a vu et il a eu l'impression de voir un esprit de la forêt. On peut croire qu'un esprit un peu fertile et versé dans ce genre de choses aurait pu s'imaginer voir ce genre de trucs. Ou est-ce que c'est lui-même qui a commis les meurtres, etc. Et tout ça, on va garder l'ambiguïté un peu jusqu'à la fin de ce truc. Donc, ce côté mystique qui te plaît bien et qui arrive un peu tard dans ce premier tome est perpétué dans le tome 2 et 3, ce qui les rend déjà plus intéressants, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Après qu'on lui ait terminé son tatouage, il regarde, et là, Yoshi lui a tatoué parfaitement ce qu'il a vu, et le mec est genre... abasourdi. Et
c'est exactement ça.
Mais il se barre tout de suite parce que bon, business de Yakuza oblige.
Il faut aller chercher les petits à l'école.
On est en semaine B, c'est Corinne qui.
Il est en congé paternel.
Voilà, exactement. Il n'y a pas de raison, la société évolue comme toutes les sociétés. Mais du coup, c'est le côté un peu mystique parce que personne n'a jamais. On apprend que Metsai Jun a essayé pendant des années de représenter ça, mais que le mec n'était jamais satisfait, du coup, a jamais accepté de se faire tatouer définitivement.
Il a fait un élan.
Il a fait un petit élan.
Vous êtes sûr, vous n'avez pas vu un élan dans cette forêt?
Ah ouais, je pensais au cerf quand vous parlez de la chasse à cour, quoi. Mais pas du tout, moi je te parle du truc mystique, merde.
Vous m'avez dessiné un ministre qui court. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça?
Je sais pas, un événement marquant de votre vie, quoi. Moi, j'ai jamais rencontré de ministre, moi ça m'aurait marqué, moi. Il est comment dans la vraie vie, le ministre?
Vous lui avez serré la main?
C'est avec cette main que vous lui avez serré la main. Oh, c'est fou. Et du coup, c'est assez impressionnant pour ça. L'histoire continue un petit peu. Là, c'est tout cet entrecoupage avec lequel on a un peu plus de mal, où il continue à voir un peu le Yabun qui lui raconte encore son histoire.
Tout est un peu mélangé.
Il continue à voir son ancien chef de gang. Il continue à voir Lago dans le bar. Et Lago, alors très clairement, là, elle l'allume, mais à 100%.
Elle fait la collectionneuse, quoi.
Alors voilà, ce qu'on apprend, c'est que Lago, en fait, est une collectionneuse de tatouages des grands maîtres. Il y a 7 grands maîtres tatoueurs japonais.
Excuse-moi, avant qu'on arrive à cette info de elle se fait tatouer par 7 grands... Faut vous imaginer, vous êtes tranquillement au bar en train de boire un verre, et là, il y a vraiment une meuf qui vient vous accoster pour vous raconter l'histoire de ses tatouages. C'est insupportable.
Tu le sais, je me suis tatoué.
Elle débarque vraiment en mode genre « Salut, t'as l'air mignon. Tu sais pourquoi j'ai ce tatouage sur la fesse? Tu veux que je te raconte ?»
Et en plus, tu veux regarder mon tatouage sur la fesse?
Sens du dialogue incroyable de cette bande dessinée. J'ai noté le dialogue.
Ah bah oui.
Enfin, Yoshi regarde la fille, la pointe du doigt. Ce tatouage a-t-il un sens?
Ah oui.
On est dans un bar, il est 2h du matin. Je connais pas un type qui regarde une fille avec des yeux parfaitement clairs et qui regarde les tatouages d'une fille qui est à moitié nue et qui lui dit « Ce tatouage a-t-il un sens ?» Non,
mais c'est pas un tatouage, c'est quand on m'a recousu après ma deuxième césarienne. Bon, tu payes en cash ou en carte, connard.
T'es aussi sympa que ma deuxième épisio. Mais du coup, la fille commence à lui raconter qu'elle s'est faite tatouer que par les grands maîtres.
Voilà. Et à chaque fois, tatouage. Alors elle dit, moi je lui donne pas une signification, mais c'est les grands maîtres eux-mêmes, je leur laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Sur mon corps. Oui, c'est un peu sexuel, hein, parce qu'il y a le moment, bah, moi je trouve assez bizarre, où elle dit, il y en a un que j'ai dû supplier, et tu vois la case, elle est à genoux. Très clairement
en train de faire la chose,
voilà. Donc tu sais pas comment elle a obtenu tout cet tatouage, mais c'est un peu suggéré par la BD qu'elle est allée vers des...
Et surtout elle drague à donf, enfin les deux se draguent, voilà. C'est d'une violence,
les deux se draguent, mais elle le drague aussi un petit peu,
ouais.
On apprendra dans les BD suivantes qu'après pourquoi elle le drague, mais elle le drague aussi parce qu'elle sait que lui est un... En fait, il est devenu un des grands maîtres, en fait, en remplaçant Seijun, il est un des nouveaux grands maîtres. Voilà. Donc, elle aimerait bien peut-être se faire tatouer par lui.
Et là,
ce tatouage a-t-il du sens?
Mais t'es con, toi.
C'est le grand maître. C'est lui, vraiment le grand maître. Le grand maître, c'est lui. Hein.
Parce que moi, j'imaginais un mec un peu plus vieux, âgé, je sais pas quoi.
Et ce tatouage, il a du sens aussi.
mec, il accède. Et je dégueule. Il est dans la moto. Il faut le comprendre.
Pourquoi
il...
Pourquoi, est... pourquoi t'es une fille? Pourquoi t'as des lunettes? Pourquoi... Tu sens pas bon de la bouche, hein?
Ouais, le fils est beurre, moi je tatoue pas les filles.
Moi avec mes corbeaux.
Tu peux me tatouer ce que tu veux. J'ai tatoué Pokémon. Alors là, et puis j'ai tatoué...
Naruto.
Naruto, il est trop cool. Parce qu'il est trop cool, Naruto. Et du coup, bah, il se passe ce qui doit se passer, donc...
Avant qu'il se passe ce qui doit se passer.
Bah quoi?
On retrouve Steven Seagal qui va au karaoké. Il est très énervant, il est très alcoolisé, il est très brutal. Il rentre dans la salle qu'il a louée, il y a un type qui dort. Il commence à le secouer.
Un vieux.
Ouais, le vieux, tu dégages, c'est ma salle, c'est ma salle. Le vieux, il dit, non, laissez-moi dormir. Steven Seagal s'apprête à sortir son flingue pour l'intimider, sauf que le vieux fait une sorte de...
Omae wa mou shindeiru.
Et là, Steven Seagal fait...
Nani?
Et puis là, il se passe... Et il est mort.
En fait, il lui a quand même ouvert les boyaux.
Voilà.
Donc Steven Seagal s'effondre.
Mort.
Mort. Le vieux balance une sorte de gaz toxique, enfile un masque à gaz...
Il avait des yeux rouges.
C'est ça.
Qui font un petit peu penser.
Au corbeau. Enfin, pardon, pas au corbeau.
Au truc mystique vu, mais qui ressemble un peu à un corbeau aussi.
Exactement.
En effet. Et donc, bon, ça se termine là-dessus. Et la dernière scène, c'est les deux beaux gosses, là, parce que c'est les deux beaux de la BD, Yoshi et Lago, qui sont en train de faire la chose.
Ils le font bien.
Hein. C'est beau, parce qu'il y a un moment où tu vois les cuisses de la meuf relevées et juste le début de la fesse de Yoshi. Et du coup, tu sais dans quelle position ils sont.
Ça t'aime bien, ça.
Ouais. Parce que moi, ça me permet de me situer et d'imaginer.
J'imagine.
Parce que sur Internet, je sais pas encore comment bien faire.
Non, du coup, ça sert à rien. Il y a rien.
Il y a rien de bien de fou, non. Et alors, ça se termine sur le gros cliffhanger, c'est-à-dire que post-Covid, il dort. Yoshi va prendre un verre d'eau et puis là, tintin, il se rend compte que sur le dos de la meuf,
il y a le tatouage qu'il a fait à
l'Oyabun. Le tatouage de la bête mystique qu'avait vu l'Oyabun dans la forêt.
Et alors là, il regarde la fille, il la pointe son dos.
C'était la petite licence.
Et là, vous dire que la meuf se relève.
Non, il pointe, il y a le gros tatouage, et puis il y a le petit tatouage infini sur son poignet. Il fait, attends, on s'en fout celui-là. C'est le tatouage infini, c'est pourquoi. Donc voilà.
Tu vas à la concrète le dimanche.
Non, mais tout ça pour dire que...
Il y a quand même ce gros cliffhanger qui est assez
elle
cool.
Elle fait, quoi? Et là, il est marqué.
C'est chouch.
À suivre.
Et donc, ces mystères sont résolus dans... Thébori, tome 2 et 3, que je vous ne spoil pas ici. C'était donc notre petite analyse de Thébori, tome 1. Gaspard, du coup...
Thébori.
Du coup, Gaspard, toi, c'était un peu mitigé.
Après, je suis curieux d'avoir augmenté mes connaissances en tatouage.
Voilà.
Qui donc maintenant vont plus loin que mon nombril. Et c'était très sympa. Voilà, après, j'admire quand même toutes les œuvres qui me permettent de collectionner les jeux de mots douteux et blagues un peu fascisantes. Ça me fait toujours beaucoup rire.
On aime bien rire avec les minorités.
J'avoue que là, la suite, j'ai pas forcément envie de la lire. En revanche, je suis curieux et. Peut-être qu'une fois qu'on aura coupé ces micros, tu me raconteras la fin.
Ouais, bah on se mettra dans le lit comme on fait d'habitude avec un chocolat chaud.
Très bien.
Et une guimauve. Je te ferai la lecture.
Et une guimauve.
Ouais. Alors là, tu vois, dans la case, il est sur la moto.
Et là, ce tatouage a-t-il du sens?
Donc voilà, moi personnellement, écoute, moi c'est une BD en effet. Je suis assez mitigé parce que l'histoire, pour avoir lu les trois tomes, au final, n'est pas exceptionnelle. Elle est un peu plus intéressante quand tu lis les deux et troisième. Enfin, vraiment, le tome 1, c'est de la mise en place, quoi. Du coup, c'est pas trop mal. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la qualité graphique.
Et à la fin du tome 2, c'est fini. Dans le tome 3, il n'y a rien.
Ouais, c'est noir. C'est les pages blanches. Ils n'ont même pas payé en langue de Chine, tu vois. Mais les gens ont quand même acheté.
Langue de Chine, hein, bah, bravo.
Ah, mais c'est comme ça que ça s'appelle.
Mais sais, bouffon.
Non, mais c'est pas ce que vous croyez. On peut avoir de langue du Japon aussi, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je vous ferai une recommandation personnellement. C'est si vous pouvez trouver le tome 1. Trouvez-le avec, c'est une édition avec 15 pages supplémentaires de croquis faits par le dessinateur qui sont absolument magnifiques. C'est l'édition que j'ai eue.
15 pages de croque-monsieur. Les meilleurs croque-monsieur du dessinateur.
C'est-à-dire qu'il a deux passions, le dessin et les
croque-monsieur.
Alors le problème, c'est que c'est une review des croque-monsieur à Madrid, donc ça vous aide pas forcément si vous vivez en France.
Et c'est dur dans le monde de l'édition de concilier ces deux passions.
Exactement, donc il s'est dit, si je sors une BD, il a dit, un jour, si je sors une BD, je parlerai des croque-monsieur.
Il était au bar. Avec son tatouage de croque-monsieur dans le dos.
Ce tatouage a-t-il du sens? Oui, oui, j'adore les croque-monsieur.
C'est trop bon, bordel.
Comment peut-on allier le goût du fromage fondu avec la saveur du pain frais?
Et le jambon.
Ah,
le jambon. Le ramen.
Et toi, Gaspard, peut-être des recommandations?
Ouais, bah, vu une, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à un film de Cronenberg. On en a parlé aussi d'un fois.
La mouche.
Non, pas cette fois-ci. Les promesses de l'ombre. À ne pas confondre avec La promesse de l'aube. Non, Les promesses de l'ombre, c'est un film de Cronenberg d'il y a une dizaine d'années sur la mafia russe à Londres. Mais en tout cas, il y avait tout ce délire de tatouage avec
Viggo Mortensen.
Exactement.
Hyper bien celui-là.
Ouais, très grand film.
Très bien.
Ouais. Et je vous dévoilerai pas l'histoire.
Putain, c'est vrai qu'il y a un vrai truc autour des tatouages dedans. Ouais. Ah bah, il est génial. Franchement, foncé, c'est un.
Mais alors là, c'est la mafia russe en Angleterre.
C'est moins tradit, c'est plus cheap dans les trucs qui vont. C'est plus vodka.
En tout cas, on se retire autant de membres que dans Tebori.
Oui, voilà, ils aiment beaucoup ce genre de choses. C'était L'heure est grave sur Tebori tome 1. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on vous parle de mon testament avec en guest mon notaire qui va venir nous aiguiller un petit peu sur les meilleurs conseils testamentaux puisqu'on parle de chronique d'une mort annoncée. Alors, je savais pas trop comment vous le dire, donc j'ai essayé de vous le dire avec une œuvre.
Non, mais du coup, voilà, c'est l'avant-dernier épisode de L'heure est grave. Voilà, l'heure devient très très grave.
Voilà, c'est très 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 grave, voilà. C'est H-5, hein, c'est comme ça qu'on aurait dû s'appeler au début, mais c'était pris. Et le dernier épisode portera sur la tombe.
Moi, ensuite, je continuerai seul sur l'entretien et. Et comment vivre seul sa vie désormais.
Le meilleur entretien de tombe. Alors, le round-up, c'est très mauvais pour...
Exactement. Bah, mais surtout, c'est vraiment voilà, comment découvrir une nouvelle vie. Je vous apprendrai à jouer au bridge.
Voilà.
On va bien se marrer.
Mais au bridge, tout seul. Là, c'est...
Bah oui.
On se marre un peu moins quand même, mais bon.
Comment adopter un chat? Comment adopter deux chats? Comment adopter plein suicide, de quoi. Chats voilà.
Donc voilà, la semaine prochaine, on vous parle de Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez, avec peut-être un guest, mon notaire. Et la prochaine BD, ce sera Fable de John From the Fountain et Bill Willingham, qui est un comics américain exceptionnel. Voilà. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux, me repère sur les réseaux, hein, et faites pas l'ego qui connaissent pas Charo surtout.
Non, lâchez les coms. J'ai eu la chance d'aller voir récemment. On a eu une petite hausse de lecture. Ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller mettre des étoiles sur iTunes, ça nous sert beaucoup.
Voilà, un grand merci à vous, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao. I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh damn, I know I jam, jam. Oh Bori, I know I jam, I know I jam, jam. Well, oh damn, why don't you jamboree for me? Kaboom, yes, kaboom, nothing new. Came on in, eight limbs and Timbs. Broke brims, smoked stems, hoop dogs with bent rims. For the real and the raw, no, who duck from the law. I never kill for the thrill, but I cut for the cause. Smoking Buddha with a hooter, get better prices from looters. Shake my shell with the shooters, lead a Luger with Duja. Some say modeling and acting, maybe Tret just selling. While I'm yelling for some felon. Shoot it, I just did it to do it, squad suited and booted. Here's the graphics, nigga.
I know I jam, I know I jam, jam. Oh, Bori, I know I jam, I know I jam, jam. Well, all jam, why don't you jam, Bori, for me? Yes, indeed. I know I jam, I know I jam, jam. Well, all jam, I know I jam, I know I jam, jam. Oh, Bori, I know I jam, I know I jam.